Bonjour à chacun et bienvenue ce matin. Il y a une raison particulière pour laquelle on se réunit ce dimanche matin pour ce culte. Contre toute attente, ce matin, on est là parce que c'est le premier jour de la semaine. Ce fameux premier jour de la semaine, vous vous souvenez à Pâques, où Jésus-Christ est ressuscité. C'est là où Dieu offre, dans sa grande bonté, à l'humanité la nouvelle vie par Jésus-Christ. Toute l'Église est comme aimantée par ce don de Jésus qui transforme les vies, transforme notre quotidien, puisque le chemin avec lui ne mène plus à la mort, mais à la vie éternelle et vers l'amour de Dieu. Alors ce matin, comment faire pour vivre ce culte qui était annoncé comme un culte de reconnaissance pour nos 60 ans? 60 ans, c'est pas rien, non? C'est un anniversaire et un anniversaire. Ça se fête, non? Moi, j'ai une question pour les enfants. Vous aimez les anniversaires? Qu'est-ce que vous aimez dans les anniversaires?
Les bonbons.
Les bonbons? Et quoi d'autre?
Les gâteaux.
Les gâteaux. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans un anniversaire?
Les gâteaux.
Les cadeaux.
Les cadeaux.
Les cadeaux.
Les mousses au chocolat.
Les mousses au chocolat. Voilà, donc ça, c'est la commande pour tout à l'heure, pour le cocktail dînatoire. Mais les cadeaux pour qui?
Pour Jésus.
À ton anniversaire. Ils sont pour qui à ton anniversaire?
Pour moi.
Pour toi. Et ce matin, est-ce qu'on fête un anniversaire pour nous? Ce que je propose, c'est que ce matin, on ne va pas recevoir un cadeau, mais c'est avoir de la reconnaissance. Se dire que finalement, ces 60 ans que l'on fête, c'est avant tout une reconnaissance, et que ce matin, on veut apporter cette reconnaissance à Dieu, lui apporter ce cadeau, parce que lui nous a aimé le premier, et bien nous, nous l'aimons en retour. Et nous vous proposons de rentrer dans ce moment de reconnaissance avec le groupe Hortus, qui nous accompagnera dans cette louange et cette reconnaissance ce matin.
Je vous invite à vous lever.
Venons danser Paris à genoux devant lui. Sa divine grâce, nous contemplons sa face, car il est notre roi. Notre roi, louons-le, roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes. reste de chaque jour. Vivant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec grand content sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Alors, pour les enfants, c'est le moment de rejoindre vos groupes. Prenez vos vestes, parce que vous allez être un petit moment dans vos groupes, et ensuite, avec vos moniteurs, vous allez vous déplacer à la salle Antoine Verchères pour préparer la chorale de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, vous protège, que Dieu bénisse vos moniteurs qui vous accompagnent, et à tout à l'heure.
On va prendre un dernier chant vers la prédication et je vous invite à vraiment le penser pour vous, le penser aussi pour nous. Voilà.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Sa bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
On reprend le refrain, juste les voix. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Bonjour à chacun, à chacune. Sa bienveillance vaudra toujours plus et mieux que tout ce que nous pourrons voir, rechercher, expérimenter. Sa bienveillance. 60 ans, trois générations. Toute une histoire, toute une trajectoire, tellement de belles histoires, tant de réalisations inspirantes aujourd'hui encore. Trois générations qui se sont engagées et qui s'engagent et qui s'engageront pour rendre encore les choses belles et possibles, pour construire une église pour Dieu, une communauté forte et rayonnante, des locaux agréables et adaptés, des projets des envies, des priorités, de la solidarité concrète dans le réel de l'existence. Joyeux anniversaire, Léem. Et à vous toutes et tous, merci d'en être. Merci d'en être. Peuple de Dieu, merci d'en être. Le roi David a eu le projet de construire une maison pour Dieu, c'est-à-dire un temple. Et Dieu lui a dit qu'en fait, ce n'est pas lui qui construirait ce temple, mais son successeur qui le construirait. Mais par contre, presque en échange, Dieu va construire une maison à David, c'est-à-dire une dynastie, une lignée stable. Dieu va donc donner à David des descendants qui lui succéderont. Et de lui, de David, naîtra, lorsque les temps seront accomplis, un fils dont le règne sera éternel, le Christ. Alors David, de son côté, a quand même préparé la construction du temple. Il a mis de côté d'énormes quantités de bronze, de fer, d'argent et d'or. Il a dressé des plans. Il a organisé le culte. Mais s'agissant de l'autre maison, la dynastie, David a laissé un héritage beaucoup plus mitigé. Comme quoi, il est parfois plus facile de tailler des pierres et de scier des planches en cèdre que de régler sa vie affective et de laisser à ses enfants un modèle à suivre. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à la suite de l'histoire et à quelques enseignements que nous pouvons tirer pour nous, pour nos 60 ans, 60 ans après la naissance de Léem. Quel est l'héritage? Comment allons-nous le poursuivre, j'espère? Comment Salomon, le fils de David, s'y est-il pris? Qu'est-ce que nous pouvons en apprendre? Je vous invite à écouter ou suivre la lecture que Séverine va nous faire maintenant, 1 Rois 6, les versets 1 à 13.
Ça me fait très plaisir d'être là devant vous, de voir tous vos visages rayonnants. Et puis, je vais lire donc dans 1 Roi 6, versets 1 à 13. C'est un passage assez technique. Donc, je vous invite à l'écouter avec des oreilles d'architecte, mais aussi avec le cœur. Le roi Salomon commença la construction du temple du Seigneur 480 ans après que les Israélites furent sortis d'Égypte. Salomon régnait depuis 4 ans sur le peuple d'Israël lorsque les travaux débutèrent, pendant le mois de Ziv, c'est-à-dire le 2e mois de l'année. Le temple que Salomon fit construire pour le Seigneur mesurait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Devant la grande salle du temple, il y avait un vestibule d'entrée de 10 mètres de large, comme le temple, et de 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple, Salomon fit faire des fenêtres à cadres recouvertes d'un grillage. Il fit construire une annexe de 3 étages qui s'appuyait contre les murs extérieurs de la grande salle et de la salle du fond. Le rez-de-chaussée de l'annexe avait 2,5 mètres de large. L'étage intermédiaire avait 3 mètres et l'étage supérieur avait 3,5 mètres. En effet, le mur extérieur du temple n'avait pas la même épaisseur sur toute sa hauteur. Il était moins épais à chaque niveau, de sorte que la charpente ne pénétrait pas dans les murs du temple. Pour construire le temple, on utilisa les pierres telles qu'elles provenaient de la carrière. Ainsi, pendant tout le temps de la construction, on n'entendit pas un seul coup de marteau, ni de pic, ni aucun autre outil de fer. La porte de l'étage intermédiaire se trouvait sur le côté sud du temple. On y accédait par un escalier tournant, de même qu'à l'étage supérieur. Pour finir la construction du temple, Salomon fit faire un plafond au moyen de poutres et de planches de cèdre. Pour ce qui est de l'annexe, construite sur le pourtour du temple, elle avait 2,5 mètres de haut par étage et elle était liée au temple par des poutres de cèdre. La parole du Seigneur fut adressée à Salomon. Tu es en train de construire ce temple pour moi. Eh bien, si tu te conduis conformément à mes lois, si tu agis selon mes règles, si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je réaliserai la promesse que je t'ai faite à ton sujet, lorsque j'ai parlé à ton père David. Je viendrai demeurer parmi les Israélites et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple.
Jusqu'ici, l'étonnante parole de Dieu. Quand je lis ce que Salomon a fait, je suis frappé par la splendeur de son temple et par le soin extrême qu'il a pris à le construire. Imaginez, 7 ans de construction, depuis la 4e année du règne jusqu'à la 11e année du règne de Salomon. Les pierres sont taillées sur mesure, au loin, dans les carrières. On n'entend aucun outil en fer sur le site du temple. Les murs sont lambrissés de bois de cèdre. Les versets suivants du texte montrent que le plancher, les lambris, les sculptures sur bois et les différents éléments du mobilier sont couverts d'or. Une maison en or. De simples fidèles comme vous et moi n'avaient pas le droit de pénétrer dans le temple. Seuls les prêtres le pouvaient, pour brûler de l'encens sur un petit autel à l'intérieur du temple. Et seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer une fois par an dans la pièce du fond, là où se trouvaient les symboles les plus sacrés de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance et les tables de la loi. Mais si nous avions pu entrer dans le temple, si nous avions pu nous faufiler à l'intérieur, nous aurions été confrontés à cet immense chandelier à 7 branches, qui donnait de magnifiques, sublimes reflets sur les dorures du temple, en laissant deviner la richesse des tentures. Nous aurions eu le souffle coupé par la richesse et par la gloire du lieu. Salomon a bien fait de construire ce temple. C'était dans le plan de Dieu pour l'époque. Salomon est allé même au-delà des préparatifs qui avaient été confiés à son père David. Non seulement pour le temple proprement dit, mais pour tout le site autour du temple où le public, les fidèles, les simples fidèles, avaient accès. Il a donc fait une immense cuve en bronze, soutenue par 12 bœufs et une dizaine de bassins montés sur des chariots pour les ablutions rituelles. Sur le plan technologique, c'était prodigieux. Pendant 400 ans, ce temple a donc été le centre de la vie spirituelle de la nation d'Israël. Pourtant, quand on lit le texte attentivement, il faut admettre qu'il y a quelques ombres au tableau. La première ombre au tableau, elle se trouve à la fin d'un roi 5, le chapitre précédent. Salomon impose à la population des travaux obligatoires. 30 000 hommes étaient réquisitionnés 4 mois par an pour aller travailler au Liban, couper, préparer le bois. 70 000 hommes étaient employés au transport. 80 000 hommes travaillaient à l'extraction des pierres dans les carrières. Ces travaux obligatoires ont généré un immense mécontentement dans le pays. Salomon ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir, mais son successeur a payé chèrement ce mécontentement et le responsable des corvées a fini par être lynché par les Israélites révoltés. 1 roi 12, verset 18. Il y avait donc un prix à payer pour la magnificence du temple. Tout n'était pas une affaire de bénévolat, de dons volontaires. Il y en avait des dons volontaires, il y en avait du bénévolat, mais il y avait aussi des impôts. Et il y avait un service de travail obligatoire. Il y avait de la contrainte. Est-ce ainsi qu'il faut bâtir le royaume de Dieu ? Dans le désert, bien avant, le tabernacle a été construit avec des dons volontaires. Et c'est sans doute une bien meilleure façon de faire des dons volontaires. L'église de Mérin, elle a été construite avec des dons volontaires. Nous avons eu l'occasion d'en faire. Nous aurons probablement l'occasion d'en refaire des dons volontaires. En tous les cas, une église se bâtit essentiellement sur du volontariat, jamais sous la contrainte ou sous la pression. Et si jamais vous sentiez qu'il y avait contrainte ou pression, résistez. Venez nous le dire. Une église ne se construit jamais sous la contrainte et la pression. Il faut y mettre du cœur. Il faut y mettre son cœur. Une deuxième ombre au tableau, c'est que la richesse du projet envoie somme toute un message mitigé. La richesse du projet, elle dit d'une part la gloire de Dieu, et c'est très bien ainsi, parce que tout lui appartient. Mais elle dit d'autre part la gloire de Salomon. Et cela ne pouvait pas tellement être autrement. On ne peut pas imaginer un grand roi dans un palais magnifique qui se contenterait d'un projet mesquin pour Dieu. Non, tout devait être grandiose. Tout devait impressionner et le peuple et les ambassadeurs étrangers. Et cela nous amène à une disposition de la loi de Moïse qui concernait directement les rois à venir. Le roi ne devra pas avoir une importante cavalerie et il ne renverra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là ». Que le roi ne prenne pas en grand nombre de femmes pour qu'il ne se corrompe pas. Qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Deutéronome 17, 16 à 17. Et c'est là que Salomon a fauté sur toute la ligne. Un roi 10 et 11 le dit, le commerce avec l'Égypte, les femmes en très grand nombre, les grandes quantités d'argent et d'or à ne plus savoir qu'en faire. Salomon est complètement sorti du cadre donné par Dieu. C'est un peu comme Louis XIV. Quand on pense à Louis XIV, à l'histoire de France, nous pouvons penser au splendide château de Versailles, où un roi récent a été se restaurer à grands frais de bouche. Quand on pense à Louis XIV, on peut légitimement penser à l'agrandissement du territoire national dont la Suisse elle-même a bénéficié. On peut penser à la place de la France dans l'Europe. Mais on peut et on doit aussi penser au sang versé pour rien, à une sorte de polygamie généralisée qui se produisait au grand jour, aux paysans affamés, à la note que devront payer tous ses successeurs. Salomon était le Louis XIV de l'époque. Un jour, Salomon, ces ors qui couvrent le temple seront dégrafés et les objets en bronze seront fondus pour verser un lourd tribut à des rois étrangers qui vous ont envahi. Un jour, ces lambris en cèdre, ils flamberont comme de la paille. Un jour, toutes ces belles pierres taillées dans les carrières seront jetées par terre et brisées. Rien de tout cela, Salomon, rien de tout cela n'est éternel. Salomon était plus riche que riche. Mais est-ce qu'il avait amassé des trésors dans le ciel? Rien n'est moins sûr. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait un lieu en Israël qui manifeste sa gloire. Un lieu unique où les Israélites viendraient l'adorer, lui le grand Dieu. Un lieu qui garantirait la rupture avec les cultes païens, avec les cultes syncrétistes, un lieu pour le Dieu unique. Mais quand les Israélites placeront toute leur confiance dans ce lieu, quand ils oublieront la loi et l'alliance, quand ils opéreront un divorce entre le lieu saint et la sainteté de la vie, Dieu fera en sorte que ce temple soit détruit. Les Israélites ont fini par être si sûrs de la présence de Dieu avec eux qu'ils ont cru que tout leur était permis. Ils ont gardé les formes extérieures de la religion, mais pour la plupart d'entre eux, ils ont oublié Dieu et sa loi. Pourtant, dans le texte que nous avons lu, Salomon lui-même était prévenu. L'Éternel s'adressa à Salomon, « Tu es en train de bâtir ce temple Si tu te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père David. Je viendrai habiter au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple. Si, un peu plus tard, si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Et tous les peuples se moqueront de vous et ricaneront à votre sujet. 1 Roi 9, 6 à 7. Le temple, c'est un beau projet. C'est un magnifique projet. Mais la véritable bénédiction de Dieu est assortie d'une condition. Si tu vis en conformité avec mes commandements. Si seulement Salomon avait persévéré dans cette voie-là, si seulement il avait terminé sa vie comme il l'a commencé, si seulement il avait donné le bon exemple à ses successeurs. 2023, Mérin, 60 ans. Nous fourmillons de beaux projets. Nous sommes traversés par des idées, par des envies. Nous avons reçu de Dieu de magnifiques promesses dans sa parole. Et Dieu nous demande à nous aussi de vivre en conformité avec son alliance. Bien sûr, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas qui nous sauve. Mais c'est ce qui découle de notre salut. C'est ce qui rend visible notre salut à celles et ceux qui sont autour de nous. La cohérence. La cohérence. C'est Martin Luther qui disait « La lumière d'une bougie va de pair avec la chaleur que sa flamme dégage. » La lumière d'une bougie va de pair avec la chaleur que sa flamme dégage. La cohérence. Alors, moi je ne connais pas beaucoup de chrétiens évangéliques, de chrétiens polygames. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens idolâtres. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens plus riches que riches. Mais des chrétiens qui se désintéressent du monde, de ses besoins matériels et spirituels, nous sommes, chers amis, toujours trop nombreux. Quand est-ce la dernière fois que nous avons prié pour la mission dans le monde, pour ces hommes et ces femmes engagés dans des œuvres spirituelles, dans des œuvres sociales? Quand est-ce la dernière fois que nous avons prié pour l'Église persécutée au Haut-Karabakh, en Somalie, en Corée du Nord, en Iran, en Turquie? Quand prenons-nous le temps de le faire? Nous remettons en question beaucoup de choses que le cours de notre société charrie. Et nous avons parfois raison de le faire. Mais nous, est-ce que nous nous remettons en question? Nous faisons attention à un certain nombre de péchés personnels, l'orgueil, la haine, la malhonnêteté. Mais je trouve que nous sommes globalement très faibles quand il s'agit de pointer les péchés sociaux. Le non-respect de l'environnement, l'enfermement des étrangers et leurs enfants derrière des barbelés, l'abandon des pauvres, les dysfonctionnements d'un système politique administratif qui parfois lèse les plus faibles. Qu'est-ce que Dieu en pense ? quand je lis certaines lois de l'Ancien Testament, quand je lis l'enseignement de Jésus, je me sens mal. La Bible, elle parle beaucoup plus souvent de la pauvreté que de l'immoralité. Mais moi, j'ai parfois parlé de l'immoralité plus souvent que je n'ai fait de prédication sur la pauvreté ou sur le saccage de la planète. Peut-être que là encore, Dieu nous trouverait incohérents, inconséquents, en déficit d'obéissance. Nous avons sûrement des angles morts, comme Salomon. Mais nous devons être plus attentifs que Salomon à la loi de Dieu, à la voix de Dieu, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Quand on fait du carrelage, le carreau le plus difficile à placer, c'est le premier. On le met où, ce premier carreau de carrelage ? Le long d'un mur ou au milieu de la pièce ? Dans l'alignement de la porte d'entrée ou plutôt de la grande fenêtre en face ? Si on n'est pas du métier, c'est mon cas, on va peut-être passer du temps à réfléchir, à tracer des lignes au sol, à imaginer comment ça va être à la fin. Puis vient le moment où on se lance. Allez, on étale la colle, on prend un carreau, on beurre le dessous, on place le carreau tout doucement. Est-ce qu'il est d'équerre ? Il est bien horizontal ? Alors, s'il est d'équerre, s'il est horizontal, on peut passer à la suite, et la suite, ça va vite, parce que le bon pli est pris. Imaginez pour la pierre angulaire du temple. Cela devait être encore plus stressant de poser ce premier carreau dans ce temple en or. Fallait pas se planter. Ce premier carreau, il allait déterminer l'alignement des deux murs qui partaient de là et leur verticalité. Et des siècles plus tard, l'apôtre Pierre dit que cette pierre d'angle dans le temple, dont nous avons parlé de la construction, cette pierre d'angle, c'est un symbole de Jésus-Christ. Il dit, il écrit, « J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Donc, il y a plus important que de construire un temple, fût-il celui de Jérusalem. Il y a plus important que de construire une église, fût-elle celle de Mérin. Et j'ose même dire qu'il y a plus important que de fêter les 60 ans d'une magnifique communauté. Ce qui est plus important, c'est de construire une vie alignée sur Jésus-Christ. Construire une vie alignée sur Jésus-Christ. Bâtie sur Jésus-Christ. Comment on va le faire ? Ben, le texte nous dit, en s'approchant de lui. Une fois, en mettant sa confiance en lui, en le prenant lui, le Christ, comme appui. 1000 fois, 100 000 fois, en revenant à lui, en vérifiant l'alignement, en se laissant redresser et en lui refaisant confiance. C'est ainsi que se construit un temple fait de pierres vivantes. Le nouveau temple de Dieu qu'est l'Église, qui est 1000 fois plus que des murs et des dorures. Et la splendeur de ce temple-là, tout orné d'amour, de justice et de foi, sera une splendeur bien plus grande que la gloire passagère de Salomon. Alignons nos vies sur Jésus-Christ. Tout le reste n'est que garniture. Amen.
Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autre me donnerait. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'abandonne mon esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
Nous vous proposons maintenant un temps de prière libre. Nous avons l'habitude de vous permettre aussi d'exprimer cette reconnaissance et je passerai avec le micro pour que tout le monde puisse entendre.
pour cette église, Seigneur. Bénis chacun. Amen.
Pour celles et ceux qui, au fil des ans, ont contribué à bâtir cette église. On te remercie pour celles et ceux qui déjà se reposent en Christ. Nous sommes reconnaissants pour leur exemple. Nous te prions de nous aider collectivement, individuellement, à mettre nos pas dans les leurs. Dans le nom de Jésus. Amen.
Pour servir d'exemple aux générations à venir. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous aides à ne pas commettre les erreurs que Salomon a commises. Même si Salomon a fait de belles choses, Seigneur, nous voulons avoir nos regards sur toi, pour chacune de nos vies, pour l'avenir de cette église de Mérin. Seigneur, qu'elle puisse continuer d'être construite comme elle l'a été jusqu'à ce jour. Nous te recommandons la suite, nous te bénissons pour tout ce qui a été fait. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, nous aimerions te donner le meilleur. Quelque part, on a envie de dire parce que tu le mérites. Cependant, Seigneur, ta parole nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'avons-nous en tant qu'Église que nous n'ayons reçu de ta part ?» Et nous voulons te dire comme le chant le dit « Seigneur, en retour, reçois notre amour. » Amen.
Seigneur, nous sommes là pour attester que tu es un Dieu vivant et proche de nous. Lorsque nous te cherchons, lorsque nous nous approchons de toi, humblement, tu es là pour nous répondre, pour être celui qui nous a créés et qui nous transforme, qui pardonne tous nos égarements, tout ce que nous n'avons pas pu accomplir. Pour une seule chose, Seigneur, d'être enfin proche de toi comme toi tu l'es de nous. En Jésus, notre Seigneur. Amen.
Pour conclure ce moment de culte, je vous invite à chanter un chant de bénédiction ou le penser les uns pour les autres Et si vous ne le connaissez pas, on refera de toute façon plusieurs fois le couplet. Donc vous avez le temps de l'apprendre avec nous.
Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
Te bénis.
Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
Nous voilà arrivés au terme de culte, mais pas totalement. Nous avions prévu une partie officielle où nous pouvons transmettre des messages des autorités, de nos églises amies ou de notre fédération. Alors, je vais essayer un discours un peu protocolaire, mais pour remercier les personnes qui sont là. Monsieur le conseiller administratif de la commune de Mérin, monsieur le président de l'AFRAY, chers amis de nos églises sœurs de la régionale ou voisine, chers amis de la paroisse protestante de Mérin, chers amis, chers envoyés, chers anciens pasteurs, chers membres, chers invités, j'espère que j'ai oublié personne. Comme je disais tout à l'heure, 60 ans, c'est pas rien. Et pour moi, c'est un exercice difficile que de fêter 60 ans en Église. C'est difficilement, particulièrement pour moi, d'annoncer un message d'anniversaire, parce que c'est pas que j'aime pas les anniversaires, mais j'aime pas recevoir des cadeaux, parce que je ne sais jamais comment les recevoir. Je suis très gêné. Et de donner l'impression d'inviter pour recevoir des cadeaux, quand j'étais petit, j'aimais pas. Et puis une éducation religieuse et familiale de mon enfance qui veut qu'on mette en avant les autres plutôt que soi-même. À tel point que, et vous l'avez peut-être déjà entendu de ma bouche, le partage d'une tarte en famille quand tout le monde pense la même chose est juste infernal puisqu'il reste toujours un dernier morceau en pensant que l'autre va le prendre. Alors aujourd'hui, ce qui me rend à l'aise, c'est qu'au fond, je vais parler des autres, de ceux et celles qui font ou qui ont fait l'Église ici à Mérin. 60 ans de présence à Mérin, mais pourquoi Mérin ? Pour mettre tout le monde au même niveau d'information, et vous pourrez voir l'exposition sur l'histoire de l'Église à Mérin, pour comprendre où on en est, où on veut aller, il est important de savoir d'où l'on vient. C'est une communauté évangélique poussée hors des murs de Colovray par l'extension de l'aéroport. C'est une cité satellite à Mérin qui se construit. C'est une vision de transformer une menace en opportunité. C'est une communauté avec une vision, une assemblée évangélique isolée qui se transforme en une église ouverte, accueillante, engagée dans la collaboration œcuménique avec les paroisses locales. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est la même vision qui se perpétue, une vision d'ouverture, d'accueil et de partage, avec notre slogan « Rejoindre ensemble Mérin ». Alors facile, me direz-vous, il n'y a qu'à suivre le chemin, tout est tracé. Oui, peut-être. Mais la réalité est tout autre. Les générations se succèdent, de nouveaux membres arrivent, d'autres vont vers d'autres horizons, de nouvelles idées arrivent, de nouvelles sensibilités religieuses. Le monde en constante évolution autour de nous ne rend pas la navigation facile pour tenir le cap. Mais l'amour inébranlable de Dieu ne change pas. Alors, que faut-il retirer comme enseignement de cette histoire ? On ne s'est pas consulté avec Philippe, mais vous connaissez mon attachement à la construction. Il y aura peut-être des échos par rapport à sa prédication. Construire sur de bonnes fondations, et croyez-moi, les fondations sont essentielles pour qu'une maison tienne debout. C'est comprendre le terrain sur lequel on se trouve et trouver la bonne réponse technique à mettre en œuvre. Faut-il encore maîtriser ces techniques ? J'ai visité cet été les Corderies royales à La Rochelle, bâtiment qui a été construit sous Louis XIV, encore une fois ça fait référence comme quoi les grands esprits se rencontrent. Ce bâtiment a été construit sur de la vase, autant dire un terrain instable, et les fondations choisies en bois, une sorte de radeau en bois qui permettait de flotter, bien qu'ingénieuses pour l'époque, n'ont pas aidé à la stabilité du bâtiment. Peu après sa construction, des murs commencent à pencher et l'architecte a dû proposer des contreforts qui viennent stabiliser le bâtiment. Encore aujourd'hui, on peut voir ces murs qui penche un tout petit peu, ces contreforts qui sont très esthétiques et on a l'impression qu'ils étaient là depuis le début, comme quoi l'architecte a des qualités de cacher les défauts. Mais alors, sur quelle fondation reposer lorsque le terrain est instable ? C'est bien cette situation qu'a vécue cette petite assemblée de Colovray une menace, un événement, un aéroport qui vient grandissant. Eh bien, la seule qui tient à travers le temps de fondation et qui tient sur tous les sols, tous les terrains, par tous les temps, c'est Jésus-Christ, Jésus seul. C'est sur cette fondation que nous aspirons aujourd'hui encore et nous l'espérons aussi demain pour continuer à construire ici à Meyrin. Construire, c'est un travail de vigilance continuelle. Et j'en connais un bout. Tu parlais du carrelage, les murs pour les monter. Il faut fixer des axes. Et ces axes, il faut continuellement s'y référer. Si un ouvrier ne se met pas sur cet axe, le bâtiment devient tordu. Donc il faut s'aligner sur les fondations pour que le bâtiment puisse bien monter. Donc construire, c'est un perpétuel chantier autour duquel s'agitent de nombreux ouvriers qui chacun participe selon ses capacités à la construction. Voyez l'organisation de ces 60 ans. La semaine dernière, à la campagne Charnot, nous avons voulu offrir à Meyrin un moment de convivialité, des jeux, des caisses à savon, raconter des contes, un escape game, un coin cirque, des bulles géantes, barbe à papa et pop-corn, et le soir un concert. Autant de choses, mais autant de personnes qui ont œuvré pour le mettre sur pied. Voyez, hier, une soirée louange et de reconnaissance. Une exposition que vous pourrez regarder après avec des artistes qui étaient ou qui sont dans notre église. Et aujourd'hui, ces moments que nous avons ensemble, cette décoration, les personnes à la technique, à la louange, les personnes que vous ne voyez pas mais qui sont en train de préparer la suite à la salle Verchères, et bien plus encore. Cet engagement des uns et des autres est une réelle bénédiction. Ces 60 ans, c'est l'occasion pour chacun de rendre service, de se mettre au service de l'autre, mais aussi au service du Seigneur, cette fondation solide. Fêter 60 ans, c'est donc se souvenir de ce qui est fait, ce qui a été fait, non pour se glorifier, mais pour constater ce qui fait une église. Alors, pour les 10 prochaines années, gardons le cap, alignons-nous sur la fondation sûre et solide, fixons les yeux sur Jésus pour vivre cette diversité qui nous caractérise, cette ouverture et cet accueil dans l'amour et l'unité. Merci. J'invite maintenant Philippe Gola, de la paroisse protestante de Meyrin.
Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, on dirait que le Saint-Esprit a bien travaillé aujourd'hui. Parce que si je n'ai pas pu entendre le message de Philippe, c'est parce que je prêchais à la cité sur « Reconstruire avec Néhémie ». Dans tous mes reins ce matin, il était question de construction. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Les 60 ans de votre Église sont également l'occasion de fêter pour nous presque autant d'années de belles et fructueuse relation fraternelle entre l'Église évangélique et la paroisse protestante. Évidemment, comme toute relation, elles ont connu des hauts et des bas. Elles n'ont pas manqué de susciter la désapprobation dans nos milieux respectifs. C'est tout à fait normal, après tout. Enfin, en un certain sens, on peut s'y attendre, c'est ce que je veux dire par là. Ce qui est exceptionnel, par contre, c'est que nous continuions 60 ans plus tard à vivre encore de belles relations entre nous. Pour cela, nous sommes tributaires d'hommes et de femmes qui se sont battus pour préserver ces liens, des liens que je dirais plus précieux que jamais, alors que je constate une polarisation des positions théologiques et ecclésiologiques de plus en plus marquées, alors que nous ressentons aussi tous le poids de la sécularisation, tous ces facteurs qui rendent l'accomplissement de nos missions respectives et communes plus compliqué. Il est donc vital que nous recevions avec humilité et reconnaissance ce bel héritage, cet héritage œcuménique intra-protestant, afin de le faire vibrer encore 60 ans de plus. Enfin, à titre personnel, j'en profite pour dire mon infinie reconnaissance envers vous de l'EM qui m'avez accueilli à Mérin comme si j'étais l'un des vôtres, ou presque. Merci Philippe, comme l'un des vôtres. Sauf erreur, les prêtres n'ont pas pu être là. Du coup, je me permets de paraphraser Monseigneur Morero à propos de ce qu'on vit à Mérin, comme quoi à Mérin, nous vivons vraiment quelque chose de spécial. Pour la citation exacte, il faut demander à Philippe, parce que c'est Philippe qui l'a entendu, mais c'est... j'ai bonne mémoire, ça va. Merci encore à vous, félicitations, joyeux anniversaire. Je ne sais pas si on peut chanter, enfin, souhaiter joyeux anniversaire pour une église, mais voilà. C'est une grande joie pour moi aussi d'être parmi vous aujourd'hui et de l'avoir été toutes ces années.
J'invite maintenant Monique Combet pour l'église évangélique de Cologny, qui fait partie de notre régionale, et église de la Frée également.
Bonjour. Alors, c'est un privilège d'être associée à votre anniversaire. Et l'église de Cologny vous transmet ses meilleures salutations, ses amitiés et aussi ses félicitations pour ses 60 ans de ministère fidèle. 60 ans, c'est long dans une vie et c'est une étincelle dans le temps de Dieu. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Et voilà, de tout temps, Dieu a utilisé les églises pour nous attirer vers lui. Et toutes et tous, nous avons besoin d'églises qui nous attirent vers Dieu. Et j'aime bien cette image que nous chantons parfois. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Alors je vais sortir de la terre ferme dont vous avez beaucoup parlé pour aller sur l'eau. On demande à Dieu d'être notre ancre et notre voile. Et nous pouvons imaginer que l'église, eh bien, c'est le bateau sur lequel nous partageons le pont avec des personnes très différentes. C'est le bateau dans lequel nous entendons des prédications qui nous révèlent la Bible et qui transforment nos cœurs. J'ai lu dans un livre que nous n'avons peut-être pas l'église que nous voulons, mais nous avons certainement l'église dont nous avons besoin. Voilà, nous pouvons prier pour que Dieu continue de protéger ses églises partout dans le monde, et que l'église de Mérin continue longtemps de briller et d'attirer des personnes sur son pont.
J'invite André Gouguer, notre président de la Fédération d'Églises. Merci.
Bonjour à chacun, ça me fait énormément plaisir d'être ici parmi vous. Alors, certains me connaissent un petit peu, parce que je suis un Genevois, en fait, d'origine. Ouais, ça se voit pas. J'ai perdu un peu mon accent, je pense, au travers de mon émigration dans d'autres parties de la Suisse, parce que ça fait pas mal d'années que je suis sur le canton de Berne. Et j'ai vécu pas mal de choses ici, dans la région, notamment avec la petite chapelle, puisque en 1978, après ma conversion, je venais ici à l'église de Mérin, en étant au groupe Shalom au Lignon, puisque c'était en fait mon lieu de vie, chez mes parents. Et puis, ben, il y a plein de souvenirs qui reviennent, les commissions bibliques. J'ai aussi participé au fait à la caravane. Il y avait aussi le coffee bar de la caravane qui était ici. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça rappelle, je pense, de vieux souvenirs, de vieilles histoires. C'est sympa. Et aussi, j'ai retrouvé quelques visages. Au nom de la Fédération romande des églises évangéliques, la FRE, dont vous faites partie, j'ai vraiment cet honneur et le plaisir de vous bénir aussi, de vous donner des salutations de la part de toute l'équipe dirigeante. On a eu beaucoup de travail au niveau de la FRE ces dernières années. Il y a eu pas mal de changements. Je ne vais pas faire tout l'historique, mais ça a été quand même compliqué. Et puis, Dieu a mis des choses en place, des personnes. Donc, on a été vraiment bénis. Je peux vous donner aussi des salutations d'autres communautés, d'autres églises qui sont encouragées de voir ce qui se passe ici à Mérin, parce que vous êtes une église qui est très riche, très diverse. Et vous avez une particularité qui a été relevée, qui a été dit à différents moments. Vous avez des liens avec l'église réformée, l'église catholique. Il y a aussi une église du réveil qui est ici à côté. C'est très, très particulier. Sur Genève, effectivement, des fois le terrain est difficile au niveau des différentes communautés. La sécularisation qui est vécue par la société fait que les églises sont de plus en plus, vues avec un angle très différent d'il y a 60 ans en arrière, avec des reproches qui sont des fois parfois formulés, certaines fois à juste titre, mais d'autres fois pas du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les églises grandissent, elles croissent, parce qu'elles ont un fondement, un socle qui a été rappelé ici, c'est Jésus-Christ. Oui, ce fondement est solide et il apporte quelque chose non seulement à nos vies personnelles, mais aussi à la société. Et cette église de Mérin, j'ai envie de lui donner un passage qui est tiré aussi de Pierre. C'est dans le deuxième livre de Pierre. Alors, Pierre écrivait déjà cela il y a 2000 ans. Mes chers amis, voilà déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une sainte manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et du Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leur propre désir. Ils tourneront votre foi en ridicule, en disant « Eh bien, il a promis de venir !» Mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Oui, c'est une promesse réelle qui vous est donnée à vous, à tous les chrétiens, mais aussi au monde. Parce que son retour va impacter ce monde d'une manière considérable. Nous sommes tous déçus de ce que effectivement, l'injustice, différents problèmes existent. Tu as soulevé certains points. Et il y a du job, et il y a du boulot qui est incroyable. Et le Seigneur nous encourage à faire ce travail. Mais il veut aussi que nous pointions nos yeux sur son attente et son retour. Et c'est dans ce sens-là que notre fédération, la FRE, veut vous bénir, vous encourager à penser à son retour, à vous préparer à son retour, et à vous préparer aussi à vivre avec d'autres communautés, d'autres églises, d'autres milieux ecclésiaux, ce retour qui est certain et qui, j'espère, sera bientôt. Amen.
J'invite le conseil administratif de la commune de Mérin, Laurent Tremblay.
Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Pasteur, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chers fidèles, j'ai le plaisir aujourd'hui à représenter le Conseil administratif, mes deux collègues, Nathalie Leuenberger, maire, et Eric Cornu, conseiller administratif. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous pour la reconnaissance des 60 ans de l'Église évangélique de Mérin. Je ne vais pas me lancer dans un grand discours théologique, Philippe l'a magistralement fait, et j'en ai de loin pas les compétences. Je vais donc non plus pas refaire votre histoire, vous la connaissez mieux que moi, mais je tenais à faire quelques remarques. En particulier, je peux ici tirer quelques points communs entre l'histoire de Mérin et votre Église. Évidemment, me direz-vous, peut-être, sûrement même. Je retire quelques valeurs communes que je souhaite partager avec vous. La première, et il me semble qu'elle est de circonstance, c'est la croyance. Croire en un bien supérieur, en un avenir meilleur. Croire comme le moteur de l'action, celle qui fait progresser la société, notre société. C'est ce qui a fait l'essor de Mérin, avec l'arrivée du CERN et des nombreuses industries que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui sur notre territoire. C'est ce qui a fait aussi que de nombreuses personnes se soient rassemblées et investies pour la collectivité, dans une association, en politique, dans son église, ou tout simplement pour aider son voisin, parce qu'il croyait en un avenir meilleur ensemble. La seconde, c'est le partage. L'église comme lieu de partage, la ville comme un lieu de partage. Nombreux sont ceux qui, dans les années 60, à Mérin, se sont mis à disposition des autres. Au sein d'associations, telles que la HVM, par exemple, dont je salue ici son éminente présidente actuelle, dans un esprit de partage et d'entraide. Sans eux, sans vous, Mérin n'aurait certainement pas réussi à prendre le virage de sa très forte croissance démographique. Et cela reste valable aujourd'hui, à l'heure où nous venons d'absorber, depuis quelques années, plus de 5 000 nouveaux habitants, avec la construction de l'éco-quartier des Vergers, bien sûr, mais aussi les surélévations ici et là dans la cité, pour ne citer que ces deux exemples. Et la troisième, enfin, c'est l'ouverture à l'autre, la rencontre. Tous les dimanches, vous venez ici, vous vous retrouvez, vous venez vous rencontrer autour de valeurs communes. Eh bien, la ville, c'est pareil. Nous travaillons avec mes deux collègues du conseil administratif à ce que les habitants de Mérin sortent de leur maison et se rencontrent pour vivre ensemble et construire ensemble un avenir radieux. Vous avez su développer les liens étroits avec les paroisses mérinoises, en particulier avec la paroisse protestante et les paroisses catholiques, dans l'objectif, et je cite votre site internet, de se rejoindre dans l'unité de foi et de mission afin que le monde croit. Et vous précisez aussi que la collaboration n'a pas toujours été simple. Il a fallu apprendre de part et d'autre à rester unis malgré les différences et les positions a priori inconciliables. Finalement, l'œcuménisme dont vous faites preuve est également un peu aussi celui du conseil administratif. À travers cette boutade, je souhaite souligner l'importance d'incarner ces valeurs d'ouverture et de partage à tous les niveaux de nos vies. J'en suis convaincu, elles sont porteuses d'espoir, de découverte et de créativité pour répondre aux nombreux défis que chacun et chacune d'entre nous se doit de relever au quotidien. Aussi, je nous souhaite de ne jamais les perdre de vue, pour rapprocher les uns et les autres dans une harmonie bienveillante et pérenne, pour le bien de nos églises et pour le bien des Mérinoises et des Mérinois. Aujourd'hui, cela fait 60 ans que votre Église existe, jubilée de diamants. Que dire de plus, si ce n'est que je vous souhaite de durer encore de nombreuses fois 60 années. Je terminerai ainsi en souhaitant à l'Église évangélique de Mérin un très joyeux 60e anniversaire et je formule pour cette jeune et alerte sexagénaire mes meilleurs voeux et je me réjouis de pouvoir continuer à compter sur le partenaire qu'elle est, sur le partenaire que vous êtes dans le vivre ensemble qui nous est si cher à Mérin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle fête.
Merci infiniment pour ces mots d'encouragement. Nous allons conclure et passer aux annonces, mais nous avons un petit message qui nous est arrivé d'une église voisine, frontalière, qui souhaitait nous transmettre un petit message et je crois qu'on va pouvoir l'afficher. Enfin, la passer.
Alors l'église du 7 de Prefsin voulait vous souhaiter pour vos 60 ans un très joyeux anniversaire.
Alors merci à l'église du 7 de Prefsin. Encore quelques annonces avant de conclure avec une bénédiction. Ce mercredi, le CTT, donc le groupe de jeunes qui se réunit tous les mercredis à 20h. Samedi 30 septembre, la journée œcuménique avec Valérie Duval-Poujol, qui sera aussi avec nous le dimanche 1er octobre pour la prédication. Une information sur dimanche prochain, puisque d'habitude, les premiers dimanches du mois, nous faisons un repas communautaire. Il est déplacé au 15 octobre, parce qu'il y aura un culte intergénérationnel, et ce sera l'occasion de terminer par un repas ensemble. Ensuite, la grande semaine pendant les vacances d'automne, donc, qui est organisée par Kids Genève et qui aura lieu dans nos locaux. Donc si vous avez des enfants, il y a des flyers à la sortie, n'hésitez pas à les inscrire. Ils sont entourés par toute l'équipe de Kids Genève et c'est dans nos locaux. Et finalement, pour la suite des festivités, on vous attend à la salle. Non, je regarde le temps parce que je t'ai planifié, on est dedans, c'est bien. On vous attend pour un cocktail dînatoire qui aura lieu à la salle Antoine Verchère d'ici une dizaine de minutes, donc ne traînez pas, mais sur place, attendez quand même que les personnes soient là pour ne pas manger toutes les petites pièces et qu'il n'y ait pas pour les autres. Mais ça, on compte sur vous dans un souci de partage chrétien. 60-40, c'est ça, non ? Ensuite, durant l'après-midi, donc il y a 2-3 personnes qui vont nous partager des anecdotes durant l'après-midi, et puis aussi les chants de la chorale des enfants. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis ce matin répéter, et puis surtout pour les vocalises et les micros se mettre en ordre. Donc l'après-midi, nous aurons les chants des enfants. Et puis à 16h, le Gospel Spirit qui aura lieu ici, concert de Gospel Spirit à 16h. Donc venez nombreux. Et puis j'invite Philippe pour la bénédiction.
Et je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Ils diront, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même la bénédiction. C'est donc Dieu qui aujourd'hui vous envoie, vous bénit et vous assure de sa présence. Belle fête, belle suite, belle semaine. Allez en paix.